Bonjour à toutes et à tous. Après une semaine de vacances, on est de retour pour le 23e épisode déjà pour le plus grand bonheur des amoureux de sport. On espère qu'on vous a pas trop manqué. En tout cas, le programme du jour s'annonce alléchant. Le Stade Toulousain qualifié en Champions Cup le samedi dernier, Tristan et Corentin étaient à Ernest Vallon pour suivre le match. On les écoutera dans quelques instants. Toulouse doit-il faire tourner avant la finale en Coupe de France? Hugo et Emilien sont en désaccord sur ce sujet. C'est le débat de la semaine, la nouvelle chronique de l'émission. Et enfin, un peu de cyclisme, le Paris-Roubaix avait lieu ce week-end, une course qui sera racontée par Charlotte.
Le Stade Toulousain est le nouveau champion de France.
La deuxième place pour Yoann Carré.
C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant.
Samedi dernier donc, les Toulousains se sont qualifiés pour les demi-finales de Champions Cup en battant les Sud-Africains des Sharks 54 à 20, un match spectaculaire. Toulouse, crispé en première période, s'est complètement lâché en seconde, comme l'a analysé Antoine Dupont en conférence de presse.
Ce qui nous rendait la tâche compliquée, c'était les rucks. On a perdu pas mal de ballons en première mi-temps qui a stoppé nos actions. Et ça a été mieux en seconde, ce qui nous a permis de trouver du rythme, des brèches et d'être aussi plus pragmatique en concluant nos actions favorables.
Tristan et Corentin, qu'est-ce que vous en avez retenu?
Évidemment, au vu de score, il y a essentiellement du positif à garder de ce quart de finale. Maintenant, sans vouloir être rabat-joie, Toulouse a encore mis quelques minutes avant de rentrer pleinement dans son match. C'était déjà le cas contre les Bulls. En première mi-temps, il y a eu pas mal d'approximations, notamment dans la dernière passe. Et les Toulousains ont quand même été, pas vraiment inquiétés, mais au moins accrochés par les Sharks. Ils ont dû jouer à 14, ils ont été menés au score, ils ont mis 23 minutes avant de marquer leur premier point, mais c'est vrai que malgré ça, à la fin, ça fait 54-20.
Et si on analyse un peu la fin du match, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce qu'à la 67e minute de jeu, il y avait 26-20 pour les Sud-Africains. Pour rappeler la situation, Kerwin Bosch vient de passer 3 points, juste après en plus un essai refusé à Grant Williams, le demi de mêlée des Sudaf. Le match il est serré, il est tendu, c'est un vrai quart de finale. Donc les Sharks y montrent les crocs pour faire tomber Vallon. Et 10 minutes et 4 essais plus tard, ils ont pris 50 points. Alors comment on l'explique? Le trajet sûrement d'Urban jusqu'à Toulouse, le manque d'expérience dans cette compétition aussi, et potentiellement le talent des Toulousains. Cette fin de match laisse une impression assez étrange, l'image de Sharks complètement engloutie par la tempête toulousaine. Une tempête qui venait du terrain comme des tribunes.
Et Antoine Dupont a également mis l'accent sur l'ambiance assez folle qui régnait à Ernest Vallon.
On a senti que ceux qui étaient là savaient la chance qu'ils avaient. Et évidemment, de pouvoir avoir ce bruit, ce soutien derrière nous, ça compte beaucoup. Donc on espère qu'ils seront le maximum à faire le déplacement à Dublin.
C'est vrai qu'on a rarement vu un public d'Ernest Vallon aussi bouillant. C'était assez impressionnant même à vivre en tribune. Il faut savoir que depuis les huitièmes de finale, le club a pris la décision de diffuser de la musique à chaque temps mort. On retrouve un peu cet esprit à l'américaine et ça a porté ses fruits sur cette rencontre. Les supporters ont pleinement joué leur rôle de 16e homme et c'est peut-être ça aussi qui a permis aux Toulousains de continuer de pousser en fin de match.
Dans 3 semaines, les Rouges et Noirs affronteront le Leinster pour un remake de la demi-finale de l'an passé. Évidemment, ce choc est dans toutes les têtes. Hugo Mola, coach du Stade Toulousain, a mis l'accent sur la puissance des Irlandais.
Toute équipe est battable, mais ceux-là, ils sont quand même redoutables.
Et est-ce que vous avez été rassuré par la performance toulousaine avant le déplacement à Dublin?
C'est un peu compliqué d'être rassuré quand on voit les performances que réalise le Leinster. Si on prend l'exemple de Josh Vanderfleer, qui a été élu meilleur joueur du monde de la saison dernière, le 3e ligne irlandais, il a perdu aucun match cette année, 18 matchs, 18 victoires. L'Irlande, elle vient de réaliser le Grand Chelem, on le sait tous, les Leinstermen roulent sur leur championnat domestique. Ils viennent enfin d'écraser les Anglais de Leicester à domicile 55-24. Donc évidemment, aucun match n'est joué d'avance, mais les feux ne sont clairement pas au vert avant d'affronter les Irlandais.
Après, même si le Leinster fait peur, Toulouse n'est pas en reste. Ils sont assez largement premiers en championnat, ils peuvent donc se permettre de faire tourner. Ils ont 6 points d'avance sur le 2e, 11 sur le 3e. Les internationaux sont en grande forme, à l'image d'un Thomas Ramos, encore une fois élu homme du match. L'effectif est plus homogène que jamais et surtout, contrairement aux années précédentes, le stade aborde une demi-finale avec une infirmerie peu fournie.
Donc en vrai, si je dois conclure, on serait peut-être plus que rassuré, on est plus excité pour ce match. Toulouse-Leinster, c'est toujours une affiche qui nous fait rêver, c'est toujours les clubs les plus titrés dans la compétition. La France contre l'Irlande, ça va être le choc aussi pour sûrement la Coupe du Monde 2023. Donc tout est réuni pour un choc qui s'annonce XXL. Les enjeux en plus sont énormes parce que d'un côté on a des Irlandais qui sont vexés de leur défaite en finale l'année dernière face à La Rochelle, qui sont un peu en mission sachant que la finale de cette année en plus sera à Dublin. Et de l'autre on a des Toulousains qui ont envie de prouver qu'ils peuvent passer l'obstacle irlandais. La semaine dernière, Jack White, entraîneur des Bulls, l'adversaire des Toulousains en huitième de finale, annonçait que c'est toujours le Leinster ou Toulouse qui gagne à la fin. Le ton est donné donc avant ce rendez-vous.
Mais patience avant cette affiche, messieurs, puisqu'on devra attendre avant ça le retour du top 14, avec deux matchs importants, dont la réception de Lyon 3e et enfin aussi un déplacement au Stade Français 4e. De quoi rester dans le rythme et préparer cette demi-finale. Et on reste dans la région, ou plutôt du côté de Toulouse. Et c'est un week-end sportif réussi pour la Ville Rose. Côté handball, le Phénix se relance avec 4 matchs sans victoire et la défaite face à Nîmes. Les joueurs Daniel Andjelkovic se rassurent face à Créteil en effet 30-36. On retrouvera les Toulousains à domicile jeudi soir à 20h contre Créteil, une rencontre à suivre sur notre Facebook Live. Le TMB enchaîne une 3e victoire de rang face à Tarbes, 74-66. Les joueuses de Xavier Noguera confortent leur avant-dernière place. Un infime espoir est toujours permis, du moins mathématiquement pour le maintien, puisque les Toulousaines reviennent provisoirement à 2 points de la zone du maintien. Elles n'ont plus que 2 matchs avant la fin de la saison. Et enfin, cerise sur le gâteau pour le TFC ce week-end. Après la qualification face à Annecy et 2 défaites en championnat, Toulouse est sortie victorieuse sur la pelouse de Montpellier. Un succès 2-1 avant d'accueillir l'Olympique Lyonnais vendredi. Nous y serons bien évidemment aussi en direct sur Facebook.
Vous voulez moi siffler ?
Non, pas du tout.
Bon, alors laissez-moi faire.
Who the fuck is that guy ?
Who the fuck is that ? Tout le truc là de PlayStation. Mais je vais t'envoyer à l'hôpital.
Le TFC doit-il faire tourner avant la finale? Le 29 avril, l'équipe de Philippe Montagnier va affronter Lyon puis Lorient avant le match au Stade de France. On rappelle que les Toulousains sont actuellement à 12 points de la relégation. Et sur cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Emilien et Hugo, je vous laisse vous avancer sur le ring. Vous avez chacun 45 secondes. Et tout d'abord, je laisse la parole à Emilien, c'est à toi.
Eh bien Louis, moi, contrairement à beaucoup de personnes, je serai pour que le TFC fasse tourner. On le sait, il y a Philippe Montagnier qui s'était exprimé avant Montpellier-Toulouse et qui avait dit justement que certains des joueurs n'étaient pas à leur meilleur niveau. Alors finalement, sur les dernières prestations en Coupe de France, il n'y a rien à dire, le TFC c'est impeccable, mais en championnat c'est quand même loin d'être parfait. Alors est-ce que le TFC doit garder le même 11 ? Eh bien non. Donc je pense que justement le fait de faire tourner permettrait de savoir qui est le meilleur joueur, qui sont les joueurs en forme. On sait que Siero pourrait rentrer dans la rotation, on sait que également Kamanzi pourrait rentrer dans la rotation, mais aussi Shaibi. Donc faire tourner d'ici là serait vraiment une bonne solution.
Merci Emilien, t'as bien respecté le chrono. Maintenant c'est à toi Hugo.
Mais alors pour moi, alors je suis absolument pas d'accord avec toi Emilien. De toute façon, tu viens de le dire, t'as que 2 ou 3 joueurs qui peuvent rentrer dans la rotation. Ils ont donc pas l'effectif pour. Et tu le vois, quand les remplaçants y rentrent, ils apportent presque jamais rien. Birmancevic devant, 1 but, Amulic à dos, c'est quand même pas jojo. Et de toute façon, ça te permettrait de garder le rythme. Et tu vois, sur les 6 derniers matchs, on a un bilan plutôt mitigé. 3 victoires, 3 défaites. Et le match contre Annecy, c'était pas non plus incroyable. Je pense qu'ils doivent accumuler un temps de jeu, les joueurs. Et de toute façon, ils n'ont pas du tout l'effectif pour faire enlever les 5 joueurs au moins. Et les 3 du milieu, de toute façon, je ne les toucherai jamais.
Merci à toi Hugo. Emilien, qu'est-ce que tu as à répondre ? Tu as 30 secondes.
Là où je le rejoins, c'est bien évidemment qu'une rotation complète de l'effectif n'est pas du tout envisageable. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand il dit qu'on doit rester sur la même équipe. Parce que contrairement à ce qu'il a dit sur les derniers matchs, l'équipe type du TFC, ça ne marche presque pas. C'est quand même très très peu efficace. Et là où on a pu se relancer, c'est finalement contre Montpellier ce week-end, avec une équipe complètement remaniée, avec des Shaibi, des Siero, des Denis Genrot ou encore des Kamandzi. Donc clairement, de faire tourner, ça peut faire découvrir de nouveaux joueurs.
Oui, ça peut faire découvrir des nouveaux joueurs. Après, tu le connais, l'effectif du TEF, s'il te plaît. Là, ils ont fait tourner, justement, parce qu'il y avait cette demi-finale. Et puis, autre chose, tu vois, il ne reste plus que 2 matchs. Il y a 2 matchs. Tu as celui contre Lyon vendredi. Et après, tu as 9 jours jusqu'au prochain match contre Lorient. Et après, tu as 6 jours. Donc, ils peuvent quand même enchaîner. Les délais sont longs entre les 2 matchs. Donc, ils ont c'est pas comme le rugby, tu sais, Emilien. Les organismes, ils peuvent récupérer très, très vite. Et tu vois, ils peuvent déjà se maintenir. Ils sont à 38 points. À 42, c'est le maintien.
Je te l'accorde, merci, merci. On va lui laisser celui-là, merci pour le gong. Bah, merci bien messieurs, je vous laisserai voter du coup en story Instagram, où vous pourrez retrouver un petit sondage qui a raison entre Emilien et Hugo sur cette question. Merci messieurs. Deuxième monument de la saison pour Mathieu Van Der Poel. Après Milan-San Remo il y a 3 semaines, il a remporté Paris-Roubaix ce dimanche. Mais bien évidemment, quelques événements sont venus marquer l'enfer du Nord pour cette édition 2023. Charlotte nous en parle.
À 16 km de l'arrivée, une chute est venue tout bouleverser alors que le groupe des favoris menait la course. Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, John Degenkolb, Filippo Ganna, Stephen Kung et Mats Pedersen. En essayant d'attaquer, Mathieu Van Der Poel a poussé involontairement John Degenkolb dans le bas-côté. L'Allemand a chuté et ses espoirs de deuxième victoire à Roubaix après 2015 se sont envolés avec. Un peu plus tard, c'est Wout Van Aert qui crève. Manque de chance pour le coureur belge qui avait coché Paris-Roubaix comme l'un de ses objectifs majeurs en 2023. Il nous dit « C'est un scénario classique sur Paris-Roubaix, je peux seulement dire que l'enfer du Nord est maudit pour moi pour le moment ». Il finit donc 3e de l'édition 2023. C'est finalement d'ailleurs le néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'impose à la ligne d'arrivée. Le coureur s'offre Paris-Roubaix en solitaire et le titre de meilleur coureur de classique du moment. Enfin, une petite anecdote a clôturé ce Paris-Roubaix. 256 km, dont 54 sur des secteurs pavés sur un vélo, ce n'était pas suffisant pour Cameron Roof. Le coureur australien, Dineos Grenadier, s'est offert un semi-marathon comme décrassage. Rien de plus classique finalement.
L'enfer du Nord était donc trop facile pour certains. Merci Charlotte. Et on rentre déjà dans le temps additionnel, 2 minutes de bonheur en plus, comme dirait Stéphane Guy. Tu tenais à adresser un premier message en préambule, Pierre.
Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'assurer que tout le monde ait passé de belles fêtes de Pâques en famille ce week-end, que la chasse aux œufs était fructueuse. J'espère aussi que les parents ont été très attentifs à leurs enfants, car sachez souvent qu'à Pâques, dans les jardins, Bruno Martini, Saïd Chaban et Noël Le Graët aiment se cacher dans les buissons avec les ralawais peints en doré, d'où l'expression « se faire des couilles en or ». Il faut donc rester vigilant, mais pas de signalement jusqu'à présent, donc on peut être assuré. Hein.
Tu nous l'épargnes pas, Graët. Et après ce petit mot, place au sport. On en parlait, le Stade Toulousain a écrasé les Sud-Africains des Sharks.
Oui, une grosse fessée, une raclée, une valise, bref, les synonymes sont fleuves pour parler de la performance sud-africaine. Le Stade Toulousain a finalement, à l'image de Rudy Gobert ce week-end, mis KO son vis-à-vis. Les Sharks sont littéralement explosés, un peu à l'image du jean slim que tu tentes de faire porter à Christo Furios. C'est vrai, les Occitans ont roulé sur leurs adversaires toute la deuxième mi-temps, un vrai siège, limite à donner des idées aux Chinois dans les eaux taïwanaises.
Et ce qu'on retient aussi, c'est le 4e monument pour Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Paris-Roubaix dans l'enfer du Nord. Charlotte nous l'a raconté.
Ouais, victoire de prestige pour le petit-fils de Poulidor. Et ce n'est pas vraiment une surprise. La cote des bookmakers était aussi élevée que la cote de popularité de Galtier au PSG, ou à Nice finalement. Course record parfaitement gérée sur les pavés des Flandres. D'ailleurs, on remercie tous les manifestants contre la réforme des retraites d'avoir rapporté les pavés pour la tenue de la course. Bon, sauf Degenkolb hein, qui a visiblement buté sur un pavé Macron assassin mal placé. Hein.
Et on passe au football, l'OM stagne dans Ligue 1.
Oui, l'OM n'y arrive plus en ce moment. 4e match consécutif sans victoire en championnat après son nul à Lorient. C'est aussi dur d'être fan de l'OM que lecteur de Playboy. Alors ce qui m'a marqué, c'est surtout la réaction d'Igor Tudor, hein, le Bruce Willis des Balkans. Il a qualifié la rencontre de match typique du foot français, alors que le technicien vantait la Ligue 1 dans les colonnes de l'équipe. Donc, j'ai noté. Perte de mémoire, difficulté à résoudre les problèmes, confusion de l'espace-temps, changement d'humeur. Oui, on est sur tous les symptômes de l'Alzheimer. Hein. Alors, ne laissons plus Igor Tudor dans la souffrance et la solitude. Aidons-le. D'ailleurs, l'entraîneur marseillais change très peu de système. Tudor, c'est un peu comme une boîte de petits pois casse-grains, à la fois légumes et conservateurs.
Et l'arbitre siffle le coup de sifflet final. Fin du temps additionnel. Merci à toi, Pierre. Et c'est enfin l'heure du quiz. Avec Mathieu, tu nous as concocté du coup maintenant la question de la semaine, qui est encore une fois sur Paris-Roubaix.
Ouais, on va tester vos connaissances en cyclisme. J'espère que vous aurez plus de réussite que la dernière fois. J'ai essayé de faire un peu plus simple. Alors sur Paris-Roubaix, je vais vous demander de me citer les 5 derniers vainqueurs de Paris-Roubaix avant la victoire de Mathieu Van Der Poel.
Alors, bon, déjà l'année dernière, c'est Van Barle.
Alors j'entends un Dylan Van Barle.
Ouais, Dylan Van Barle l'année dernière.
C'est une bonne réponse.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un Gilbert, un Belge?
Ah, est-ce que tu as son prénom peut-être? Son
nom. Philippe Gilbert.
C'est oui, ça. Philippe Gilbert, c'est une bonne réponse. Alors il me faut encore 3 noms. Il y a un Belge, un Italien et un Slovaque.
Le Slovaque, ça doit être Peter Sagan.
Peter Sagan, évidemment. On manque encore deux.
Thijs Benoot.
Thijs Benoot. Ah, c'est pas une bonne réponse, malheureusement.
Alors, peut-être que l'Italien, ça doit être Nibali.
Ce n'est pas Vincenzo Nibali, qui n'est pas du tout habitué au Paris-Roubaix, malheureusement. Alors, il me faut encore deux réponses.
Essaye de nous souffler en régie, mais...
Ah, c'est difficile. Hein. Alors,
quoi, un Italien, un Belge.
Un Italien et un Belge, du coup. Un Italien qui avait gagné en 2021, sous la boue, une édition dantesque.
Ah, Sonny Colbrelli.
Ah, Sonny Colbrelli, j'ai entendu. C'est une bonne réponse. Et il m'en manque un. Voilà, en 2017, le seul titre d'un sur Paris-Roubaix, du coup, pour ce Belge. Une victoire au sprint.
C'est un spécialiste des pavés.
Ouais, c'est un spécialiste des classiques flandriennes, des pavés, oui.
Ah, je crois qu'il y a un aveu de faiblesse pour les chroniqueurs.
Ah, je pense que vous l'aurez pas. Son nom, c'est Greg Van Avermaet.
Ah, ouais, Van Avermaet. Bah, oui.
Et c'est donc déjà la fin de cet épisode. Je remercie tous les chroniqueurs ainsi qu'en régie. On se retrouve non pas mardi la semaine prochaine, mais lundi pour un nouvel épisode. En tout cas, portez-vous bien et passez une excellente soirée.